10h-11h sur RCM, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Bien le bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission, et puis c'est tout, redémarrage de la saison, et je suis très heureux d'être accompagné de nos amis Céline et Audrey. Je commence par Audrey parce que c'est sa toute dernière.
Oui.
Bonjour Audrey.
Bonjour, merci de m'accueillir pour cette dernière émission pour moi.
Tu vas nous manquer Audrey.
Et réciproquement.
On se voit en général à l'antenne, mais comment on se tutoie dans la vie, on va se tutoyer.
Avec plaisir.
Audrey, donc de l'ERHR, tu vas nous dire un petit mot sur l'ERHR.
Ok, donc l'équipe relais handicap rare Nord-Est. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc il y a des équipes relais partout en France. Sur le site internet de l'équipe relais, on trouve toutes les infos. Mais nous, on intervient particulièrement notre antenne sur le territoire de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne.
Et en un mot, ça sert à quoi l'équipe relais handicap rare?
À accompagner toutes les personnes en situation de handicap rare, dont les personnes avec une épilepsie sévère.
Merci.
En situation de handicap.
Merci de m'expliquer, Audrey. Et ben voilà, c'est très important. Et donc Céline à ma gauche, également de l'équipe relais handicap rare.
Oui,
bonjour Céline, comment ça va?
Ça va bien.
Pour nous, on aura le plaisir de continuer l'émission
bien
ensemble.
Bien sûr. On poursuit.
Et bien on est ravis. Alors aujourd'hui dans l'émission, on va aborder le sujet des troubles cognitifs pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Et comme vous le savez, hein, chaque fois on démarre cette émission par un micro-trottoir. On est allé vous interroger dans la rue, vous poser des questions. Quelle question a été posée dans la rue? Qui, Audrey, Céline, qui nous pose la première question? Et après, je présenterai évidemment nos invités.
On a commencé par la première question qui nous semblait un peu la base. C'est quoi la cognition?
Eh bien, on va écouter la réponse des gens dans la rue et ensuite, on en discute tous ensemble.
Oui, ça, je comprends. Voilà, des troubles, l'aspect du comportement, du cerveau, des relations avec notre propre corps, hein, peut-être. Mmh. Hein, voilà, et des troubles cognitifs, ben, on peut penser qu'effectivement, ça génère des plus que des désagréments, hein, bien sûr, des handicaps. Voilà.
Mmh. Ouais. Des troubles de mémoire?
Ouais.
Ça va, des troubles de mémoire, voilà, tout ce qui va avec. Les maladies, peut-être dues à des maladies dégénératrices, des choses comme ça.
Bah, des troubles de la communication, peut-être. De la compréhension.
Ouais, j'en ai pas la moindre idée.
Ça dépend des connexions du cerveau.
Des capacités à retenir des choses, et quoi encore, ben, personnes âgées aussi. Du coup, ça fait Alzheimer aussi. Mais ça fait quoi, beaucoup de choses quand même. Ça fait maladie aussi, en fait. Troubles de dégénérescence.
Je ne sais pas ce que c'est, écoute,
petite.
Par rapport au cerveau.
Bah, tout ce qui permet de faire en sorte que les membres soient synchronisés. Hein, voilà.
J'associe ça un peu à une faculté, l'aptitude à faire des choses, à réfléchir avec sa tête, avec son cerveau qui marche bien, tout ça, mais je ne saurais pas te donner une définition plus précise que ça.
Alors on oublie des choses de notre quotidien, des personnes de notre famille par exemple,
où
on n'arrive plus à faire certains mouvements aussi, non?
C'est un peu le cerveau qui déraille et qui ne marche pas comme les autres. Par exemple, l'Alzheimer, il n'y a pas des troubles cognitifs un petit peu?
Ah si, du coup. Bah, c'est peut-être une forme de sensibilité qui est propre à chacun au niveau du, bah, j'imagine, du cortex, avec plusieurs zones peut-être touchées au niveau du cerveau. Voilà, je sais pas. Les sensations, la réaction à la lumière ou peut-être à ce qui peut être lié à, je sais pas moi, un sentiment ou quelque chose comme ça.
C'est le fonctionnement dans le cerveau pour savoir les mouvements du corps.
Cognitif.
Ouais.
Voilà, ça me fait penser aux troubles cognitifs. Mais après, vous m'avez parlé d'épilepsie, donc oui. Je pense que c'est avec le système nerveux, je sais pas.
Aux capacités d'apprentissage, je sais pas, je associe ça à la neurologie, à tout un tas de choses. Voilà.
On a entendu beaucoup de choses dans ce micro-trottoir et je vais vous proposer qu'on y réagisse tous. Mais avant, je vais vous présenter nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir à ce micro. Je vais commencer par Natacha Fortofer. Vous êtes psychologue spécialiste en neuropsychologie au CHRU de Nancy. Et je crois que vous m'avez même précisé sur le centre de référence des épilepsies rares adultes. À vos côtés, Corentin. Voilà, bonjour, bienvenue Corentin. Corentin Clochet. Vous êtes une personne qui souffrait d'épilepsie.
Oui.
Voilà, et vous avez évidemment, comme beaucoup, fait des études et eu un métier d'ingénieur, et vous nous raconterez une réorientation professionnelle tout à l'heure et comment justement vous vous êtes adapté avec les troubles dont vous souffrez. Et puis également avec nous Shirley Franc. Bonjour Shirley. Vous également, vous souffrez d'épilepsie depuis l'âge adulte. Vous êtes également ingénieur, et avec vous on parlera plus particulièrement de vos troubles cognitifs, mais comment vous les avez adaptés dans votre vie au quotidien et dans votre vie de famille et dans votre vie de couple. Alors, est-ce que peut-être l'une ou ou l'autre d'entre vous a envie de réagir à ce qu'on vient d'entendre dans ce micro-trottoir sur finalement la question qu'est-ce qu'un trouble cognitif ? On a entendu beaucoup de choses. Qui veut prendre la parole en premier ? Chorley ? Je voyais bien que vous vouliez y aller, mais que vous hésitiez. Alors on vous écoute. On a entendu beaucoup de choses. Hein, donc,
il y a beaucoup de choses effectivement qui ont été dites. Alors il y a des fausses idées, il y a des choses qui vont se rapprocher effectivement des problèmes cognitifs liés à l'épilepsie. Mais ce qui en ressort déjà à première vue, ça va être tout ce qui est associé à des dégénérescences et à la maladie d'Alzheimer. En fait.
On entend beaucoup.
On entend beaucoup, en fait, ces termes-là revenir dans ce qui est dit de la part des personnes interrogées.
Juste, pour nos auditeurs qui entendent du bruit, on est désolé, il y a des travaux en dessous de notre studio. On leur avait demandé de calmer le jeu, mais a priori, c'est pas fait. Voilà, donc il y aura peut-être un peu de bruit durant cette émission et on pourra malheureusement pas échanger grand-chose. Donc on a entendu effectivement ce que vous disiez, il y a une vraie assimilation Alzheimer qu'on entend, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont été dites. Peut-être qu'Oran, vous voulez rajouter quelque chose ?
Moi, j'étais étonné de l'honnêteté des gens. Par exemple, les gens qui disent « j'en ai aucune idée ».
Oui.
Au moins, c'est dit.
Alors, c'est bien, hein, parce que quelque part, on est là pour justement le définir. Et tout à l'heure, le docteur, je vais retrouver votre nom rapidement. Voilà, merci. Docteur Fortefer, donc vous nous décrirez tout à l'heure ce que sont les troubles cognitifs. Mais voilà, Corentin le dit, il y a des gens qui admettent ne rien savoir par rapport à ce qu'est un trouble cognitif. Vous, ça vous surprend, docteur ?
Non, pas du tout. C'est vrai que le mot cognition, il fait un petit peu peur, je pense. On l'entend pas forcément, enfin, on l'entend un peu vaguement, un peu partout, mais on n'a pas forcément la notion de ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça, je pense que quand on l'entend, c'est souvent dans des contextes de pathologie neurodégénérative type Alzheimer. Donc c'est pour ça que ça revient, je pense, aussi souvent dans ce micro-trottoir-là. Et tant qu'on n'est pas confronté finalement à ces troubles-là, qu'on n'a personne qui nous l'a expliqué réellement, ça reste plutôt flou, même si indirectement...
On a quelques
idées. Toutes ces fonctions qui sont derrière, on les utilise tout le temps et on en parle tous les jours.
Tout le temps, ouais, c'est ça. Alors, restez avec nous parce qu'on va le définir dans un instant, hein, ce que sont les troubles cognitifs. Céline, Audrey, une réaction par rapport à ce micro-trottoir. Vous étiez, je crois, là dans la rue à interroger les gens. Comment les gens abordent cette question quand vous allez les voir ? C'est pas simple, hein, de poser cette question aux gens dans
du
la rue.
Du tout, et je rejoins complètement Madame Fortefer. Nous, on a constaté, donc, lors du micro-trottoir, effectivement, dès qu'on parlait cognition... Alors là, c'était le vide. Le vide pour les personnes. Et si on ajoutait trouble cognitif, est-ce que cognitif ou trouble cognitif, ça parle un peu plus ? Oui, là, d'emblée, les personnes commençaient à élaborer un peu, en lien toujours avec les maladies neurodégénératives, plutôt. Voilà. Mais bon, globalement, je ne vais pas redire la même chose que Shirley et Corentin. Il y a quand même des petits faisceaux. On sent que les gens entendent certaines choses. Après, c'est la mise en relation entre eux, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont compris et les impacts de l'épilepsie, où là, c'est plus flou.
C'est ça, parce qu'on peut avoir une idée relativement générale, mais après, il y a beaucoup de choses assez précises qu'on va vous définir dans
quelques instants. Peut-être un amalgame entre les fonctions cognitives et puis ce qui a trait au sens, aux sensations. Je ne sais pas.
Oui, parce qu'on a entendu parler de sensibilité, de sentiment, par exemple. Et est-ce que ça fait partie des troubles cognitifs ? On va évidemment redéfinir ça dans un instant. Audrey, une réaction par rapport au micro-trottoir ?
Non, moi, comme à chaque fois, comme on se le disait aussi tout à l'heure, c'est à la fois des gens très... très averti et en même temps des gens qui découvrent. Donc il y a presque jamais d'entre-deux dans le micro-trottoir. Et on est des premières surprises à chaque fois qu'on interroge des gens dans la rue. Il y a des gens très au fait. Il y a toujours des petites idées reçues. Puis il y a des gens qui vraiment découvrent. Donc...
On a entendu parler de cerveau qui déraille, par exemple, et c'est vrai que c'est une question qu'on va se poser. Est-ce que c'est le cerveau qui déraille ou est-ce qu'effectivement... Mais tout ça, on va évidemment en parler durant cette émission. La deuxième question que vous êtes allé poser aux gens dans la rue, c'était quoi ? C'est Céline, Audrey, qu'est-ce qui posait Céline ? Allez, on t'écoute, Céline.
Est-ce que, d'après vous, une personne épileptique peut avoir des problèmes cognitifs, des difficultés cognitives ?
Eh bien, on écoute les réponses tout de suite.
L'épilepsie, c'est une maladie, hein, bien sûr, hein, qui génère forcément des troubles de comportement, c'est sûr, et hélas, hein, mais que c'est peut-être pas des... Pour moi, je connais pas grand-chose, mais que ça ne... c'est peut-être pas en lien avec les troubles cognitifs. Quoi, peut-être.
D'accord. J'imagine que ça doit influer sur la cognition, en tout cas au moment de la crise. Après, j'imagine que la personne récupère ses moyens.
Un raisonnement d'absence.
Pour avoir connu quelques épileptiques, pour moi, non, il n'y a pas trop d'impact. même si sur le cerveau, on ne sait pas ce que ça peut faire à terme. Mais les gens que j'ai vus qui étaient épileptiques étaient tout à fait normaux.
Oui, je sais que les personnes épileptiques, elles ont une sensibilité à certaines...
les effets stroboscopiques, là.
Oui, voilà, les effets de lumière qui sont trop agressifs aux yeux.
Bah, je ne sais pas, peut-être des troubles de la concentration, ou de l'humeur, ou des choses comme ça.
Vous parlez de l'épilepsie aussi. Bah, les gens qui ont des épilepsies répétitives aussi, ils perdent la mémoire, Alzheimer, plein de choses comme ça. Oui, exactement, parce que ça joue sur la mémoire. Et puis voilà, ils peuvent en avoir, ce problème-là. D'autres impacts, des fatigues tout le temps. Et puis des problèmes pour s'exprimer couramment aussi. Mm-hmm. Oui, la lenteur dans les vocabulaires. Oui. Et puis... ça déprime aussi souvent.
Ça, c'est que quand il a la crise, c'est quelqu'un qui est complètement normal, comme vous voyez.
Bah oui, carrément, oui. Visuel, auditive, des soucis, peut-être la sensibilité, je sais pas, vis-à-vis de la lumière.
D'accord.
Beaucoup de choses, là encore, qui ont été dites par les gens dans la rue. Corentin, je me tourne vers vous cette fois-ci pour la première réaction à ce micro-trottoir.
Oui, et là encore, on parle de beaucoup de choses et on replante Alzheimer de temps en temps.
ça revient beaucoup.
Oui, c'est la petite cerise sur le gâteau.
Il y a beaucoup de questions aussi qui se sont posées, je trouve, dans ce micro-trottoir et on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Shirley,
Il y a aussi le terme de normalité qui revient. Les gens pensent que ça peut affecter direct, mais au moment de la crise, pas après.
C'est ça.
Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites, encore une fois d'idées reçues, pas par, par méconnaissance, en fait, je pense. Pas parce que c'est une idée reçue qui est faite comme ça. Non, je pense que c'est plutôt par méconnaissance, en fait, du sujet et de ce que ça peut être, en fait.
C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Fortoffer. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, je pense, un besoin d'informer aussi sur ce qu'est un trouble cognitif. Votre réaction à ce micro-trottoir, on a entendu beaucoup de choses. On entend effectivement, ça arrive au moment des crises. On entend aussi cette notion de quand les crises sont répétitives. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'on abordera dans l'émission.
Oui, effectivement, je pense que déjà chaque personne est différente, donc ce qu'on entend derrière des troubles cognitifs est différent pour chacun, des expériences aussi de chacun, et c'est de ça dont il parle finalement dans ce micro-trottoir, c'est qui était concerné, comment je l'ai vu, donc peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui ne connaissent que d'autres personnes qui ont une épilepsie plutôt dite un peu plus légère, qui répond bien au traitement, qui est pharmacosensible, qui ne fait plus du tout de crise, et qui peut-être, lui, les troubles cognitifs sont beaucoup plus légers ou pas du tout, même présents. Alors que forcément, plus ça avance et plus il y a des changements qui peuvent se faire à ce niveau-là, qui sont invisibles. Et ça, c'est une notion, je pense, sur laquelle on va revenir plus tard, mais qui est importante aussi. Et parce que c'est invisible, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal peut-être à s'imaginer ce qu'il y a derrière tout ça, et notamment dans le cadre des épilepsies, en fait.
D'où l'importance d'en parler, d'informer, et pourquoi pas même de former, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure. Audrey, une réaction à ce micro-trottoir ?
Peut-être juste, mais je pense que ça fera partie du débat de tout à l'heure, c'est cette idée que dans ce qui est invisible, quand quelque chose se manifeste et qu'on ne s'y attend pas, on pense peut-être qu'il y a des troubles du comportement, on a entendu quelqu'un parler de ça, ou peut-être de la déficience intellectuelle, et c'était un des points qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, c'est de bien distinguer les choses et de se dire que non... ce qui peut se passer chez une personne épileptique n'est pas forcément ni lié à une déficience intellectuelle, ni à un trouble du comportement, mais peut-être une conséquence dans son quotidien, un moment de fatigue. Voilà, donc c'est...
On va l'expliquer, je crois que c'est très important qu'on puisse expliquer ça dans quelques instants, effectivement, qu'en général c'est plutôt une conséquence, et on va voir un petit peu de quelles conséquences on parle. Céline, toi qui étais dans la rue, donc à poser ces questions...
De la même façon, la confusion peut-être avec les troubles du comportement, comment très vite on va sur ce versant-là, et puis moi j'avais aussi été un peu marquée par le lien direct qui est fait avec le moment de la crise, et on n'imagine pas que peut-être... Avant, après la crise, il y a toujours des choses qui se passent dans le cerveau. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous avait un petit peu marqué.
Oui, effectivement. Il y a aussi une personne qui disait l'épilepsie génère forcément des troubles du comportement. Donc on voit bien effectivement l'amalgame qui peut être fait. Ouais. Et ça, on va en reparler dans l'émission. Je vous propose que justement, dans un instant... Docteur Fortoffer, vous allez nous définir ce que sont les troubles cognitifs. On va essayer de mieux comprendre pour les gens qui ne connaissent pas, et on l'a bien remarqué, on est tous un peu ignorants sur le sujet, ce que sont les troubles cognitifs. Et puis après, avec Corentin et Shirley, on va un petit peu plus plus parler du trouble cognitif dans la vie au quotidien. Vous allez nous raconter, vous, comment vous faites pour vivre avec, comment vous faites pour finalement les faire presque oublier dans votre vie au quotidien. Vous nous raconterez ça tout à l'heure ?
Oui.
Alors le temps d'écouter Shirley, vous avez choisi un titre qui s'appelle Houdini de Dua Lipa, et dans un instant vous nous expliquerez pourquoi on écoute Houdini. C'est maintenant sur RCN dans Et puis c'est tout. On est ensemble en direct jusqu'à 11h.
Sur RCN, et puis c'est tout.
On est avec vous en direct pour parler aujourd'hui des troubles cognitifs pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Je le rappelle, dans ce studio avec nous, Shirley et Corentin, nos témoins, qui nous raconteront tout à l'heure comment ils vivent avec leurs troubles cognitifs et comment aussi, finalement, ils arrivent à y remédier au quotidien. Et puis avec nous, le docteur Natacha Fortoffer. Je rappelle, vous êtes psychologue et spécialiste en neuropsychologie au CHRU de Nancy. Et on l'a bien compris quand on écoutait le micro-trottoir il y a quelques instants. Il y a une vraie méconnaissance de ce qu'est un trouble cognitif. Il y a, je pense, un manque d'information. Et si vous le voulez bien, j'aimerais bien que vous nous expliquiez très simplement ce que c'est, pour que nos auditeurs et nous, on puisse mieux les comprendre et mieux les appréhender.
Oui, alors derrière, effectivement, le terme de cognition, qui est ce mot qui est un petit peu inconnu, on a vu tout à l'heure, de beaucoup de monde, il y a des notions qui sont connues de tous, c'est-à-dire que ça regroupe toutes les fonctions supérieures qui sont sous-tendues par le cerveau, qui sont la mémoire, la concentration, le langage... les fonctions exécutives, alors là c'est un deuxième petit terme un peu abstrait qui veut dire tout ce qui est pouvoir gérer les changements de routine, quand il y a un imprévu, pouvoir prendre des décisions, des choses comme ça. Donc ça c'est tout ce qui est les fonctions exécutives. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on utilise tous les jours finalement, vraiment au quotidien.
Et que dès qu'on dit mémoire, dès qu'on dit attention, langage, voilà, tout de suite, ça s'éclaire. Et c'est tout de suite beaucoup plus simple de dire, bah voilà, un trouble cognitif, c'est un trouble dans une de ces fonctions-là ou dans plusieurs, ça dépend des personnes.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut, avoir un seul de ces troubles. Alors, on va le redire, mais c'est très difficile parce que c'est quelque chose d'invisible. On parle de troubles invisibles. Mmh. Donc, du coup, difficilement appréhendable, je pense, par les entourages, mais pas peut-être aussi parfois par les patients.
Oui, alors, en soi, le patient, je dis toujours, c'est le meilleur témoin puisqu'il se connaît très bien. Donc, lui, il sent quand est-ce qu'il commence à avoir des difficultés, qu'il y a des petites choses qui changent. Nous, on est là pour pointer un petit peu plus, des fois, certains aspects, mais surtout pour les aider après, derrière. On pourra en revenir tout à l'heure, je pense, sur cette notion d'aide. Mais il se connaît très bien. Donc, lui, il va le remarquer qu'il y a quelque chose qui change. Ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais lui, il sent que voilà, c'est pas fluide comme d'habitude. Il y a plus d'oubli que d'habitude. Je fais des erreurs dans mon travail que je ne faisais pas avant. Il y a plein de petites choses comme ça, et au fur et à mesure, on va se dire, bon là quand même, c'est vraiment souvent, on a beau me dire, oui, moi aussi ça m'arrive de temps en temps, mais là moi c'est tous les jours, c'est tout le temps que je dois faire un effort. Et c'est là en fait qu'arrive le trouble, et la différence entre quelqu'un qui aura un oubli de temps en temps, et qui va passer inaperçu, de celui qui arrive tout le temps. Et des fois après c'est aussi les proches qui vont remarquer, parce qu'ils vont se dire, bah tiens, je trouve que là... Ah, je sais pas, t'as pas écouté ce que j'ai dit hier. Enfin, pourquoi ? Et encore, de nouveau, je te l'ai nouveau redit, mais pourquoi tu retiens pas ? Et c'est là, comme ça, progressivement, qu'il y a ces questions qui vont émerger. Je dis, bon là, peut-être que ça va un peu plus loin que juste le petit oubli du quotidien.
Corentin, Shirley, vous, par exemple, ces troubles cognitifs, vous les avez sentis arriver avant votre entourage ? Comment ça s'est passé avant d'aller plus en détail sur votre parcours quotidien ?
Alors, je l'ai remarqué, mais en même temps, on m'a fait remarquer. Parce que du coup, quand j'ai eu une crise... La crise qui a démarré mon épilepsie. Ensuite, tous les aidants, donc tout le cercle, l'entourage, assimilaient chaque chose que je faisais forcément à l'épilepsie. Donc la petite journée où ça se passe un peu moins bien, on va dire que c'est à cause de l'épilepsie.
D'accord.
Alors que ça se trouve, c'est simplement la journée qui se passe moins bien. Ou simplement la fatigue qui revient. Donc, comme l'a dit Madame Forthofer, ça peut être tous les jours, ça peut être de plus en plus. Donc... c'est en fonction de moi, en tout cas le patient, comment il la vit et comment vit son entourage.
Ça amène une question d'ailleurs, ce que vous dites Corentin, la notion de fatigue, de ce qu'on vit finalement, c'est la journée qui a été difficile, etc. Ça peut rendre les choses d'autant plus compliquées parce qu'on l'assimile au trouble d'épilepsie, mais c'est pas forcément d'ailleurs que lié à l'épilepsie, hein, le trouble cognitif, docteur.
Ah oui, effectivement, il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir sur la cognition, hein. Donc l'épilepsie, c'en est une, la répétition des crises, etc. Mais comme le disait Corentin, la fatigue que peut entraîner des fois le fait de faire des crises, juste la fatigue en elle-même, peut aussi induire des troubles cognitifs. On parlait aussi de tout ce qui est d'avoir une maladie peut induire des troubles un peu de dépression, d'anxiété aussi, qui sont plus importants et qui eux-mêmes vont aussi induire des troubles à ce niveau-là, au niveau cognitif. Donc au final, c'est un mélange et tout est lié ensemble. Et c'est pour ça qu'on milite aussi pour une prise en charge pluridisciplinaire souvent, parce qu'il y a tous ces aspects-là à prendre en compte et que c'est pas que l'épilepsie, c'est pas que le moral, c'est pas que la fatigue, c'est tout ensemble.
Mais alors, pour bien comprendre, est-ce que quelqu'un qui souffre d'épilepsie a ou aura forcément des troubles cognitifs ? C'est quand même une question. On entendait d'ailleurs tout à l'heure quelqu'un qui disait « Oh non, en général, ça n'a pas d'impact sur les personnes qui souffrent d'épilepsie.
» Alors, il y a quoi qu'il arrive, tout le monde est concerné un jour dans sa vie par des troubles cognitifs, dans le sens, il y a aussi une forme de normalité, il y a un gradient. On disait, si on est fatigué, on en sera moins bon à mémoriser les choses.
Bien sûr.
Si on a mal dormi, parce qu'il y a aussi l'hygiène de vie, il y a ce côté-là qui va intervenir aussi. Si on dort mal, si on a des insomnies, il y a une période où on sera aussi moins bon, il y aura l'attention qui sera moins bonne à ce moment-là. Et après, il y a le côté le trouble, où là, en l'occurrence, on arrive sur des répercussions au quotidien, où il y en a vraiment, on est différent des autres, on a un peu plus de difficultés. Donc par rapport à ça, là je me suis perdue et je suis en train de me dire que c'est moi-même qui ai un trouble de mémoire de travail. Je suis partie sur deux idées à la fois.
Il était bien qu'on se rend compte, docteur.
Voilà. Comme quoi ça peut toucher tout le monde, hein, on est bien d'accord. Donc là je me suis perdue sur deux idées en même temps. Donc j'étais partie sur cette notion, oui ça peut toucher tout le monde. Donc les troubles cognitifs, c'est vraiment quand ça a un impact. Donc les patients avec une épilepsie sont potentiellement tous touchés parce qu'il y a plus de facteurs peuvent intervenir et toucher ces troubles-là. On sait qu'il y a jusqu'à 70% des patients qui peuvent être concernés par ces troubles cognitifs, mais comme je disais, ils ne sont pas forcément sévères. Ils peuvent être plutôt légers, ils peuvent être des fois compensés, et même souvent compensés. Ils peuvent toucher un domaine isolé, pas forcément tous les domaines qu'on a dit tout à l'heure, donc que la mémoire, que l'attention, etc. Et c'est dans les cas des épilepsies plus sévère, où là, ça va toucher plus de 90% des patients, voire quasiment tous les patients, dans au moins un domaine.
Ce que vous appelez épilepsie plus sévère, on peut peut-être le définir ou le redéfinir pour nos auditeurs aussi, parce que même si ici, on le définit régulièrement, on explique régulièrement qu'il y a autant, finalement, d'épilepsie que de personnes qui souffrent d'épilepsie, mais qu'est-ce qu'une épilepsie plus sévère ?
Alors, ça va vraiment être une épilepsie de patients qui continuent à faire des crises, qui ne répondent pas au traitement et qui, des fois, vont être associés aussi à d'autres pathologies associées et qui vont conduire à ce que tout soit beaucoup plus difficile avec une perte d'autonomie, souvent aussi derrière.
Et l'impact des médicaments, parce que donc on traite les épilepsies aussi avec des médicaments. Est-ce que prendre des médicaments quand on souffre d'épilepsie, ça peut générer ces troubles cognitifs ? Est-ce que ça peut être un des effets indésirables ?
Alors oui et non. J'ai envie de dire, tout dépend toujours.
Vous êtes normande, vous.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais donc disons que voilà, une personne qui a un traitement de nouvelle génération sur des faibles doses, qui tout est bien régulé, qui ne se passe plus rien, souvent on ne peut pas dire que le traitement a un impact vraiment de ce côté-là. Par contre, une personne qui commence à avoir un, deux, trois traitements sur des doses très fortes et qu'on est obligé de passer sur des traitements aussi de pas de première génération, mais de plus ancienne génération. Là, on sait que c'est là qu'il peut y avoir un impact du traitement, parce qu'on sait que les traitements de très ancienne génération avaient un impact sur le langage, sur la mémoire, sur des aspects bien spécifiques de la cognition.
Chorlet, je vous ai laissé tranquille 2 minutes, mais ne pensez pas que j'allais vous oublier. Vous, ces troubles cognitifs, ça s'est passé comment ? C'est vous, c'est votre entourage qui vous a fait remarquer qu'il y avait peut-être effectivement ces fameux troubles cognitifs liés à vos épilepsies ?
C'est moi-même et mon conjoint, en fait. Moi, il faut savoir que j'ai un parcours un peu particulier avec l'épilepsie, parce que j'ai eu de la chirurgie de l'épilepsie, en fait.
D'accord.
Assez récemment, hein, ça date de 2023. Et avant 2023, bon, il y avait des signes un peu précurseurs, mais voilà, on ne s'en inquiète pas forcément. Et par contre, après cette chirurgie, ces chirurgies d'épilepsie, j'ai voulu reprendre des études, en fait, pour changer complètement de métier, parce que je ne pouvais plus faire mon ancien métier.
Qui était votre ancien métier ?
Géologue minière.
D'accord.
Voilà, c'est un peu particulier comme métier.
C'est très précis.
Et j'ai repris des études en ingénierie pédagogique. Alors, pas du tout la même chose.
D'accord, effectivement, ouais.
Voilà. En gros, c'est tout ce qui est sciences de l'éducation poussée. Voilà.
D'accord.
Et en reprenant ces études, effectivement, oui, il y avait une différence entre l'étudiante que j'étais avant, pendant mes premières années d'études, et l'étudiante, on va dire, actuelle. Et ça a été vraiment très, très compliqué. Et après mes opérations, quand j'ai eu un bilan de neuropsychologie pour faire un petit peu le point sur tout ce qui était cognitif, oui, là, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des choses qui avaient changé et ça confirmait en fait ce que nous, on avait déjà pu observer en amont après les opérations qui s'étaient déroulées, en fait. Donc, il y avait des opérations, mais il y avait aussi la maladie qui avait impacté
sur ces troubles.
Voilà, c'est ça.
Et là, vous m'avez envoyé une balle magnifique parce que je voulais qu'on parle justement de l'évaluation neuropsychologique. Docteur, c'est quelque chose qu'on fait quand on se rend compte qu'un patient souffre de troubles cognitifs, et ça consiste en quoi et c'est quoi l'objectif ?
Alors, je vais faire un petit topo, après, si je laisserai compléter à
bien
ceux
sûr
qui l'ont fait de l'autre côté aussi, parce que je
pense
que c'est
important. Elle va nous raconter, Charlotte. Je la laisse tranquille à nouveau 2 minutes, mais vous inquiétez pas, Charlotte, je reviens vers vous.
Ouais, donc, le bilan neuropsychologique, il peut être très court, j'ai envie de dire. Pour nous, très court, c'est 1h30 à 2h, mais à beaucoup plus long, pour faire justement le tour un peu sur tous ces aspects-là de mémoire, concentration, etc. Donc, on imagine bien que si on fait le tour de toutes ces fonctions, ça prend du temps. Ça passe toujours par un petit entretien aussi, savoir comment le patient se sent au quotidien, quelles sont les difficultés. Après, il y a la partie vraiment d'évaluation, vraiment en termes de mémoire, etc. Puis, il y a une restitution de ces résultats-là. Et on essaye, dans la mesure du possible, quand il y a un accompagnant, c'est d'avoir aussi l'accompagnant pour lui expliquer tout ce qu'on a vu et comment ça peut se répercuter au quotidien. Donc là, par exemple, on a vu que par rapport à la population tout venant, on sent que cet aspect-là est un petit peu plus difficile pour vous. Donc, au quotidien, ça veut dire que ce que vous me disiez tout à l'heure, que quand je dois travailler en open space, ça ne marche pas du tout, je me laisse distraire par tout ce qui se passe autour de moi et je prends 3 fois plus de temps pour faire les choses. Vous voyez, cette fonction-là, donc cette fonction d'inhibition pour le coup, pour nous, elle est beaucoup plus difficile et il va falloir mettre des aménagements en place. Voilà, donc là, c'est pour expliquer vraiment aussi.
Shirley, Corentin, vous avez fait, vous justement, cette évaluation. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Peut-être Corentin, puis après Shirley.
Ah, c'était génial. Non,
très bien. Ça vous a paru court, ces fameuses deux heures? C'était très court ou très long?
Oui, bah, j'ai souffert, je vais te faire le martyr. Mais... Non, bah, vu que la personne qui m'a fait passer le test est juste à côté de moi, je ne peux pas dire grand-chose.
Attendez, elle va sortir deux minutes. Vous pouvez tout nous dire.
Non, en soi, au début, je ne me souvenais plus de votre visage. Donc il y avait vraiment un souci du point de vue de la mémoire. Mais ensuite, quand j'ai fait le test, on voit petit à petit qu'est-ce qui a été titillé, qu'est-ce qui a été... On a essayé de travailler sur la mémoire à court terme, mémoire, la restitution, notamment quand on voit une liste de mots, quand on voit les listes des choses. Et il faut être le plus efficace possible pour paraître le plus adroit possible. Et du coup, c'est un test qui est sympa à faire. Mais pour autant, il y a une petite pression derrière. Mmh. Parce qu'on se dit, c'est quoi le résultat? Quel va être le résultat? Comment on va être mangé, en soi?
Ouais. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Vous ne reconnaissez plus son visage, donc la mémoire, effectivement, c'était le trouble qui vous impactait. Mais tout à l'heure, le docteur Fortoffer nous parlait du lien qu'il peut y avoir aussi avec la déprime, une dépression. Vous l'avez vécu comment quand vous vous êtes rendu compte de ça? Est-ce que justement, ça impacte aussi après sur la santé mentale, j'allais dire, plus généralement?
Alors, pour ma part, j'avais fait une dépression, oui, donc vous voulez dire quand j'ai...
Quand vous découvrez effectivement que vous avez ce trouble de la mémoire, peut-être que Shirley aussi pouvait nous en parler, il faut le vivre aussi ce moment où on diagnostique ce trouble-là quelque part.
Alors moi, c'est de manière plus générale, c'est le trouble de l'épilepsie. C'est ouais. Plus que la mémoire.
Plus que la mémoire.
C'est vraiment tout le package, on y va avec un paquet de cadeaux et c'est parti. On prend tout ce qu'il y a à prendre, on ne laisse rien. Et donc, on était la veille, comme d'habitude, et le lendemain, on se retrouve aux urgences. Donc, y a un petit décalage qui est fait, et ensuite, il faut apprendre à vivre avec ce décalage. Et en soi, maintenant, je l'oublie. Et c'est comme ça que j'arrive à mieux travailler avec, à mieux vivre.
Oui, donc pour vous, c'est important de connaître et de maîtriser aussi les troubles cognitifs qui sont impactés.
Oui, mais aussi de réussir à ne pas se fixer là-dessus.
Ouais.
Parce que quand on se fixe sur une chose, on ne l'oublie plus. Et du coup, c'est en fait le serpent qui se mange la queue, c'est la fatigue, etc. On va se fixer sur une chose et on va jamais l'oublier. Du coup, moi, ce que je préfère, ensuite, je laisserai la parole, c'est vraiment, ok, il y a eu un bilan qui a été fait, très bien réalisé. et depuis, tout va bien. Et voilà, on avance et on regarde ce qui peut se passer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et c'est comme ça que moi, je peux avancer, malgré les soucis.
Donc vous, votre remède à vous, c'est de ne pas y penser. Oui. De savoir qu'il est là, mais de ne pas y penser et d'avancer.
Oui. Mais les aidants sont à côté de nous et du coup, les aidants nous le rappellent H24. Donc c'est la joie de vivre avec des aidants. Quelqu'un veut aider?
Mais on va en parler de ça dans un instant. Vous avez raison d'en parler, c'est important de le dire. Shirley, vous juste comment j'allais dire c'est le terme m'a échappé, mais le bilan. Merci. Comment vous l'avez vécu? Elle est pas à côté de vous, elle est en face, donc vous prenez moins de risques.
Et comment vous fait quand même et plusieurs fois non. mais moi je prends tous les retours. Je veux progresser aussi, donc il faut me faire critique constructive. Je prends.
Fatigant.
Ouais.
Ah oui, on ressort de ça et puis ça dure. Excusez-moi, mais ça dure plus qu'une heure et demie ou deux heures.
Ah non,
ça.
J'ai dit plus court.
Elle est honnête.
Non, ça dure très longtemps. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressent. On est fatigué après. Il faut pas nous demander de prendre des décisions compliquées après. C'est pas possible. C'est fini. Non, fatigant. Par contre, c'est intéressant pour savoir où on en est. Donc ça donne, on va dire, une première base pour le premier. Et puis après, comme ça, pour les autres, on peut se situer, savoir qu'est-ce qu'on peut travailler. Sur le ressenti, disons que le premier, comme je ne savais pas trop à quoi m'attendre, voilà, au moins ça fait la base. Par contre, sur le deuxième, celui-ci, comme j'avais déjà ces sensations qu'il y avait quelque chose qui avait changé, mais vraiment radicalement, je m'y étais déjà préparée. Par contre, effectivement, l'annonce, comme
chaque annonce, hein, quelle qu'elle soit, pour n'importe quelle maladie, c'est un peu difficile à vivre sur le moment. Alors, outre l'aspect de la maladie, on est bien d'accord, hein, c'est tout un package. Malheureusement, on n'y peut rien et on doit faire avec. Donc, il y a déjà cette partie d'acceptation de la maladie qui est compliquée. Après, effectivement, quand vous avez le bilan neuropsychologique, bon, bah, vous avez aussi autre chose à accepter. Et selon les personnes, ça peut être vécu plus ou moins difficilement. Hein. Le ressenti est propre à chacun.
Bien sûr.
Moi, comme j'étais en études et tout, bon, bah, je me suis dit, faut aller de l'avant, quoi.
Ouais.
On y va et puis bah, on va voir ce qui peut être mis en place pour s'adapter et essayer de compenser, comme Madame Fortefeur le disait tout à l'heure, au mieux, pas au maximum, mais du moins au mieux, en fait, ces pertes, ces difficultés cognitives qu'on a maintenant et essayer d'avancer, en fait. Donc ça s'est fait, pour ma part, un peu comme ça.
On vous entend tous les deux, hein. Vous dites quand même, globalement, il faut avancer.
Ouais, voilà.
On reste pas bloqué dessus et on poursuit.
Bah, le problème, c'est que rester bloqué, bah, c'est rester bloqué.
Bah oui, c'est ça, exactement.
Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite ?
C'est important de le dire. Après, il faut avoir la force de caractère aussi de le faire.
Ouais. Bah, ça prend du temps. Ça prend du temps, parce que ça, c'est voilà, un travail sur soi, un travail aussi avec son entourage, travailler... savoir comment on travaille aussi, parce qu'on travaillait d'une certaine façon et ensuite on travaille d'une autre façon, une façon qui soit plus en phase avec notre façon de faire, notre nouvelle façon de faire, parce que du coup il faut la trouver celle-là.
Dans un instant, je propose que vous nous expliquiez comment on trouve cette façon de faire, comment on remédie finalement à ces troubles cognitifs une fois qu'on les a appréhendés. Et puis, on va reparler aussi, il me semble que c'est important d'en parler, de comment on en parle avec ses proches, son entourage, ses aidants, mais aussi, pourquoi pas, dans la vie professionnelle. Céline, on en parlait tout à l'heure, hein, et on disait que c'est important aussi peut-être de pouvoir en parler ou pas. Et ça, vous nous le direz dans un instant. Ça vous va comme ça ?
Oui, très bien.
On écoute... qu'est-ce qu'on écoute ? On va écouter...
Martin Picker.
Très bonne réponse. Voilà, écoutez cette douce mélodie du Marteau Piqueur. On peut peut-être écouter Émilie Simon, Fleur de Saison. Oui. Est-ce qu'on l'a, Jean-Luc, c'est tout bon ? Eh ben, on écoute Émilie Simon tout de suite avec Fleur de Saison sur RCN. C'est un choix du docteur Fortefeur. Elle nous l'expliquera dans un instant. Et puis, on continue d'évoquer ensemble les troubles cognitifs sur RCN. C'est jusqu'à 11h dans Épices et tout.
Dès les premières lueurs, oh, je sombre. Il me paraît bien loin l'été, je ne l'ai pas oublié, mais j'ai perdu la raison. Et le temps peut bien s'arrêter, peut bien me confisquer toute notion des saisons. Docteur, en tout bien tout
RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Qui est très bien représentée par Audrey et Céline à mes côtés, ça va toujours bien.
Parfait, très bien.
Bon, Audrey, Céline, on avait dit qu'on parlerait aussi un peu du lien dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Et on a la chance d'avoir avec nous Corentin et Shirley qui nous racontent très très bien ce qu'ils ont vécu jusque-là. Mais maintenant, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vos parcours. Peut-être, qui veut commencer ? Corentin, Shirley, par qui je commence ? Ne vous précipitez pas.
C'est parti, je commence.
Allez, Corentin, je suis chaud. À côté de nous, Corentin. Corentin, alors, donc, je le redis, donc vous souffrez d'épilepsie, ça fait combien de temps ?
Ça fait... J'ai demandé à ma droite.
Oula, j'ai pas révisé non,
non
plus.
Non, ça fait 6 ans. 6 ans.
Six ans. Ouais. Et donc, associé maintenant à des troubles cognitifs. Et tout à l'heure, quand le docteur Fortefer parlait du fait qu'on puisse être pharmacorésistant, avoir plusieurs médicaments, vous avez levé la main.
Oui, d'ailleurs. Parce que je check toutes les cases. C'est des traitements, j'en ai testé plein. Plein. Mm-hmm. C'était sympa, hein, franchement... À chaque fois, on change. Ça, au moins, c'est... Il n'y a jamais de lassitude.
Parce... on s'ennuie jamais sur son traitement.
Parce qu'à chaque fois, on entre dans la pièce et on ressort avec un autre sac. Bon, au bout d'un moment, ça commence à faire rire, mais voilà, j'apprécie. Et je change encore de traitement, donc ça, c'est la petite nouvelle du jour. Qu'est-ce que je disais par...
on allait parler maintenant, effectivement, donc vous souffrez de troubles cognitifs, oui, qui vont avec, donc vous c'est la mémoire, si j'ai bien compris.
Oui, principalement la mémoire.
Vous avez suivi des études.
Oui, j'ai fait des études d'ingé, ingé en génie informatique. Mm-hmm. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur. Mmh. J'ai travaillé deux ans.
Juste pardon, en souffrant d'épilepsie à ce moment-là,
oui,
et donc des troubles qui allaient avec.
Oui, avec les troubles qui allaient avec, et je passais ma journée sur l'ordi. Donc j'avais le droit.
Vous cumuliez.
Ouais. Ouais, moi j'ai troubles. Je ne souffre pas de troubles, tout ce qui est photosensibilité, etc., qu'on assimile quasiment tout le temps à l'épilepsie.
Oui, on a déjà entendu ici, voilà, que c'était pas le cas.
Voilà. Donc dès que je vois un film et qu'il y a marqué « Attention photosensible », il y a tous mes proches qui me regardent et qui sont un peu vénères. Mais à part ça, tout va bien. J'ai bossé là-bas. Et ce que j'ai fait, justement, pour mieux travailler, c'est que j'ai pris des pauses. Et la pause café du matin, la pause café la deuxième du matin, la troisième du matin, et ensuite, on peut bien travailler. C'est la petite sieste de midi, c'est tout ça, c'est les petites pauses qui fait qu'ensuite on se sent mieux, tout simplement. C'est une façon de travailler qui est différente, parce qu'on n'a pas à être constamment omnubilé par son écran, par ce qui se passe en haut, à gauche, etc. Ou quand mes supérieurs parlaient un peu trop fort, je leur disais, il y en a qui travaillent ici. Donc j'ai pas été viré. J'aurais pu, mais voilà, c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on change les comportements, c'est en changeant son comportement pour commencer.
Ouais. Vous êtes adapté véritablement à ce trouble, vous avez trouvé effectivement votre part de remède en fait pour le contourner finalement.
Le café,
la pause café, et puis un peu de calme et de repos aussi, c'est important. Vous nous avez tout à l'heure parlé de l'entourage.
Oui. Alors, l'entourage...
Parce que, et vous le dites, pardon, je rebondis, mais vous le dites très justement, quand vous allez voir un film et que c'est écrit « Attention, photosensible » et tout le monde se retourne vers vous, c'est un peu comme un diabétique qui prendrait du sucre où tout le monde lui dit « Oh là là, t'es diabétique !» C'est un peu ça, l'idée, quoi.
Oui, c'est clairement ça. Surtout qu'en fait, c'est pas forcément... ça va pas ensemble. Donc, on fait un lien. C'est comme si, avec le micro-trottoir, on disait que j'avais Alzheimer. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je l'aurai peut-être dans plusieurs années, mais qui sait. Et c'est à chaque fois ce lien qui est fait un peu trop rapidement avec les aidants, les proches, etc. C'est qu'on veut toujours mettre l'accent sur ce qui ne va pas ou ce qui n'irait pas, plutôt que de regarder ce qui va bien. Donc en fait, c'est ce regard un peu pessimiste, ce regard un peu négatif de la chose, alors que justement, en faisant abstraction de tout ça, on peut avancer, et c'est comme ça qu'on avance.
Comment vous faites justement pour expliquer à vos proches, à vos aidants, à votre entourage parce qu'en fait finalement ça passe un peu par de l'explication, de l'information.
C'est direct, premier contact, bon moi j'étais un peu en retard ce matin donc je l'ai pas dit mais je suis épileptique. Donc voilà, si je suis au sol, il y a rien à faire, il faut juste me regarder.
Bah oui, c'est important. Alors, c'est bien, c'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais cela dit, puisqu'on parle d'épilepsie, c'est bien, vous avez raison de le redire. Voilà, il faut à un moment donné, il faut protéger en fait. Faut dégager tout ce qui entoure pour éviter que la personne se blesse. Mais quand c'est pas trop long, on n'appelle pas les secours, ça sert à rien.
Exactement. Voilà. Et du coup, en fait, les gens qui ne connaissent rien à ça, rien à la thématique, on sent déjà leur battement du cœur qui s'accélère. Là, qui sont. Ah bon, il y aura une crise dans pas longtemps. Ok, oui. Donc les gens ne savent pas trop quoi faire, mais c'est pas grave. Au bout d'une semaine, ça s'est calmé et voilà. Mmh. Et puis une fois qu'ils auront vu une crise en vrai, là ça va calmer les ardeurs.
Et par rapport à vos troubles cognitifs, parce que donc vous souffrez de la mémoire. Oui, non, mais c'est bien de parler tout parce que ça va ensemble, en tout cas pour ce qui vous concerne. Pareil, vous l'expliquez, on a cet échange parce que c'est vrai que des fois dans le milieu professionnel, c'est pas simple. Est-ce que vous l'expliquez aux gens avec qui vous travaillez pour qu'ils comprennent que vous avez effectivement besoin de vos remèdes, de ce que vous avez mis en place? Comment vous faites pour l'expliquer? Est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous le dites? Voilà, je souffre de troubles de la mémoire liés à mon épilepsie et donc j'ai besoin qu'on me foute la paix quand je prends mon café, qu'on me parle pas trop fort et voilà. Non, mais, alors, des fois, est-ce que.
Petit message pour mes neveux. Mes neveux que j'adore. Parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit cette nuit.
Alors, je vous dis un truc, vous avez un autre trouble que vous ne saviez peut-être pas, mais c'est l'humour. Hein. Et gardez-le parce qu'il est bien celui-là.
Non, bisous à vous deux. Je l'explique, mais en fait, je l'explique simplement par l'épilepsie. Je vais pas plus loin que les troubles dont je souffre. C'est l'épilepsie, encore une fois, c'est tout le package. Là, au moins, l'épilepsie, c'est un grand mot et ça permet de tout cocher. Et ça permet que les gens se disent tout de suite « Ah !» Donc c'est peut-être un peu violent. Hein, c'est vraiment mettre la tête en plein dans le mur. Mais c'est, oui, l'épilepsie.
Voilà. Vous le mettez sur ce compte-là. Alors, mon petit doigt me dit que vous avez donc été ingénieur en informatique, mais qu'il y a un projet en ce moment.
Oui, projet. C'est que, tout simplement, c'était pas mon métier, simplement. Mmh. Et là, je suis sophrologue, j'ai ma carte, si vous voulez, donc je vous la donne juste après.
Plaisir. Avec plaisir.
C'est, c'est l'idée, toujours, c'est être là pour les gens, être une idée un peu plus, on va dire, humaniste de la chose. Les sous, c'est pas pour moi. D'ailleurs, j'en ai pas. Et c'est simplement les gens qui troublent de dépression, qui souffrent par exemple, de dépression, comme je l'ai fait, ils ont besoin de quelqu'un à qui parler. Mm. Et quand on a nous-mêmes souffert de dépression ou autre, c'est là qu'on est d'autant plus serein et d'autant plus ouvert à ce genre de propos, à ce genre de débat. D'ailleurs, un ami qui était épileptique avant moi, moi, à chaque fois, j'étais là en train d'acquiescer. Ah oui, d'accord, oui, t'as fait une crise. Oui, okay. Et ensuite, je suis devenu épileptique. J'ai fait, ah oui, d'accord, t'as fait une crise.
C'est ah oui, d'accord, mais différemment.
Oui, exactement. Donc voilà, ça fait partie de ce projet, ça fait partie de tout ça. Être malade en étant normal, ça permet d'être avec les gens et c'est pour ça que je suis là.
Très bien, on vous remercie pour votre présence et votre témoignage. Shirley, on en a un petit peu discuté, mais c'est aussi avec votre conjoint quand vous découvrez vos troubles cognitifs. Racontez-nous un peu votre parcours de vie. D'abord, on va peut-être commencer par quand est-ce que vous découvrez l'épilepsie et quand est-ce que vous découvrez ces troubles et surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment ça se passe aujourd'hui? C'est très large, ma question.
Oui,
hein.
oui, tout à fait. Alors, officiellement... épileptique depuis 2018. Mmh. Je dis bien officiellement parce que ça a été diagnostiqué avant, mais il y a eu une phase de deuil de ma part, qui a duré pendant beaucoup d'années. Et donc, pour accepter tout ça, comme on disait tout à l'heure, selon les personnes, il faut du temps. Moi, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps et c'est un accident de voiture qui m'a fait prendre conscience que j'étais
épileptique et qu'il fallait faire quelque chose. Bon, depuis, tout va bien, j'ai pu récupérer le permis, voilà. et du coup, on va dire, il faut faire de la sensibilisation, de la vulgarisation, c'est vraiment très important, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu affectif, familial. Alors après, tout le monde n'accepte pas. Voilà, il faut aussi savoir trouver les bons mots, ce qui n'est pas évident non plus. Après, voilà, ça dépend des sensibilités de chacun, de chacune. Pour ma part, quand j'ai repris mes études, bon, bah, j'ai été cash direct. Je l'ai dit au corps professoral. Et on a pu adapter, en fait, les cours en fonction des différents troubles que j'ai. Parce que moi, il n'y a pas que la mémoire.
Hein. J'allais vous demander, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué les troubles. Alors, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas envie. Mais
J'ai la concentration, j'ai l'attention, j'ai l'inhibition, hein, comme on parlait tout à l'heure, ce qu'on appelle aussi la flexibilité mentale, c'est-à-dire passer d'une tâche à une autre. Donc, bon, y en a plusieurs. Voilà, ça fait un beau packaging aussi. Ouais. Et du coup, par exemple, ce que me proposait le corps professoral, comme il fallait beaucoup travailler par projet, en fait, en groupe, c'est qu'il me réservait une petite salle, en fait, pour moi et mon groupe, afin qu'on soit plus au calme, au lieu d'être dans la salle collective pour travailler. Donc, c'était vraiment agréable, en fait, et le corps professoral s'est vraiment adapté à ma pathologie pour que je puisse, en fait, suivre au mieux les cours. Donc ça, c'est pas tout le monde qui est sensibilisé à ça, qui comprend, mais moi j'ai eu la chance
que parce que c'est parti du fait que vous leur en avez parlé aussi,
oui,
ça vous leur avez expliqué la situation, voilà. Et du coup, il y a pu avoir aussi un échange, un dialogue qui s'est mis en place pour faciliter.
Voilà, complètement. Donc il y a eu ça. Après, au sein du travail, quand j'ai fait mes stages professionnels, je leur en ai parlé aussi. Donc on a pu mettre en place une journée de télétravail, ce qui me permettait d'être un peu plus au calme pendant un jour de la semaine pour vraiment travailler tranquillement chez moi. Les pauses café aussi, café, thé, tout ce que vous voulez, c'est parfait.
Très bien.
La petite sieste du midi aussi, c'est très bien. Et pour ce qui est de la vie, on va dire, familiale, affective, plus personnelle, c'est de l'apprentissage sur le long terme. Hein. C'est pas parce que, voilà, on a conscience de ça que c'est acquis.
Oui, alors j'allais vous poser la question, c'est pas toujours simple pour justement les plus proches aidants, parce que d'abord il y a dans les troubles, quand on parle de troubles de la mémoire, ça peut être je te l'ai dit plein de fois, c'est ce genre de choses, et que parfois quand on est très proche, trop proche, les messages passent peut-être moins bien. Est-ce que vous l'avez fait par vous-même? Est-ce qu'il y a aussi l'intervention peut-être du docteur Fortefer qui a pu aussi aider ce dialogue, cette discussion?
Alors, Madame Fortefer a beaucoup aidé, a donné beaucoup de conseils, donc ça a pas mal joué aussi. Par contre, effectivement, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est source de disputes, d'engueulades, on va dire ça comme ça, parce que effectivement, quand c'est dans la vie de tous les jours, des fois, l'autre va peut-être penser que c'est fait exprès ou que c'est le coup de la fatigue. Alors oui, il y a la fatigue, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, moi, quand j'ai repris mes études, il me fallait vraiment des moments de calme, de concentration, parce que je n'ai pas les mêmes facultés qu'une personne, on va dire, lambda, ou normal, pour reprendre certains propos qui ont été énoncés en début d'émission. Donc il me faut plus de temps, en fait, pour travailler, pour m'adapter, pour me concentrer. Moi, si vous allez me demander d'effectuer une tâche, puis 10 secondes après de passer à une autre, tout en me demandant de penser à quelque chose d'autre, c'est pas possible. Et là, je risque de m'énerver, de perdre patience, et puis non, ça va pas le faire. Donc il y a tout, en fait, un apprentissage, hein, vraiment, à faire, aussi bien pour l'autre, pour les proches, pour les aidants, mais aussi sur soi-même. Donc c'est vraiment, la maladie n'impacte pas que soi, mais impacte aussi l'entourage, mais différemment. Donc c'est un apprentissage, on va dire, en équipe, collectif, qui se fait sur le long terme. Tout n'est pas joué d'avance, tout n'est pas gagné d'avance. Et
c'est peut-être même jamais gagné, ça se fait comme on...
Voilà, comme on peut, hein, avec
comme
les
on
moyens...
les choses avec le
exactement,
temps.
Exactement, avec les moyens qu'on a aussi, si on arrive à dialoguer ou pas, parce que la communication, c'est propre à chacun, à chacune. Et il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Oui, j'ai des petits exemples comme ça. voilà. Par exemple, je travaille. Mon chéri, qui est en train de faire la liste de courses pour savoir qu'est-ce qu'on va manger dans la semaine, qui vient me voir, qui me dit « Ma chérie, on mange quoi cette semaine ?» Et je suis concentrée, je révise mon cours.
Mais réfléchis toi-même.
Voilà.
T'es
mais
grand.
Mais c'est ça.
Je vous rassure, ça existe dans tous les couples, ça.
Et puis, il va revenir 10 secondes après. Ah oui, mais
pour faire des pas de boulot, il faut quoi? Bah écoute,
une bonne connexion internet, ton smartphone et t'auras l'accès sur Marmiton.
C'est des petites choses comme ça, donc ça fait rire, ça fait sourire, mais quand vous êtes porteur déjà de troubles cognitifs,
ouais, je comprends.
C'est beaucoup plus compliqué en fait qu'une personne, on va dire, normale, entre guillemets. Mais ça va être des petites choses comme ça, vous voyez, qui sont complètement invisibles, qui passent complètement inaperçues, mais qui peuvent être source vraiment de disputes pour un rien, en fait. Et des fois, ça peut poser des difficultés et peser en fait sur le moral de tout à chacun. En fait.
Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. On va devoir se quitter malheureusement et le temps passe très très vite. Mais je vous remercie beaucoup parce que je crois qu'on a bien compris qu'en fait, chacun trouve son remède et l'explique aux autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à accompagner ensemble la vie. Et puis, vous nous avez prouvé qu'en fait, on peut vivre tout à fait normalement. C'est invisible, certes, et c'est bien d'en parler, mais on vit complètement normalement. Et ça, c'était bien de vous entendre. Merci à tous les deux. Merci Shirley, merci Corentin. C'était un plaisir de vous avoir.
Merci.
Et merci pour la confiance que vous nous accordez en nous parlant de vous et de votre vie, parce que c'est pas toujours facile. Merci beaucoup, docteur. Alors, je dis docteur, mais je sais pas si on dit docteur. Natacha, en tout cas, Fortofer.
J'ai le titre aussi.
Vous avez été donc docteur, j'ai bien fait de le dire. Psychologue et spécialiste en neuropsychologie. Neuropsychologie au CHRU de Nancy. Quelques ressources rapides à donner à nos auditeurs que vous retrouverez sur YouTube. Audrey, c'est toi?
Eh ben, je sais pas, on s'est pas répartis. On s'est pas dit. Alors, on a une très grande liste qu'on mettra, comme on a peu de temps.
Qu'on va vous mettre sur les réseaux sociaux, évidemment.
Moi, du coup, j'ai envie de peut-être mettre l'accent sur ce qu'on s'est dit quand on a préparé l'émission avec Charlie et Corentin, que les meilleurs plans pour entretenir ces fonctions cognitives, c'est principalement les jeux de société. Allez jouer, il y a des bars à jeux un peu partout et puis
plus,
jouer en famille avec
plaisir.
Les neveux.
Ben voilà, exactement. Et après ils font moins de bruit le soir, vous verrez grand.
Voilà, mais en tout cas la vie sociale en général, avoir des activités de loisirs, de sportives, de culture, etc. sont des bons moyens aussi pour compenser. On va vous mettre toute une liste et puis aussi où trouver, où faire un bilan neuropsychologique. On s'était dit qu'on on pouvait préciser ça, je sais pas le temps qui nous laisse et si toi tu voulais mettre en avant une ressource en particulier.
On peut citer la fiche conseil peut-être de la Ligue française contre l'épilepsie pour les adultes épileptiques qui permet de recenser un petit peu les différentes atteintes cognitives et comment on peut aussi compenser, quels conseils au quotidien on peut adopter, c'est vrai que vous en avez un petit peu parlé. Et puis l'association Synapse qui est locale, qui permet de faire appel à des neuropsychologues pour des ateliers mémoire et de la remédiation cognitive.
Merci beaucoup mesdames. Merci Céline. Merci Audrey, c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur cette aventure. Plein de bonnes choses pour la suite de tes aventures.
Merci, et puis longue vie à l'émission et puis c'est tout, mais à RCN aussi. Et merci de votre soutien.
Avec grand plaisir, c'est un bonheur de faire cette émission tous les mois. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à Jean-Luc qui est à la technique. On vous souhaite une belle journée et à dans un mois pour un prochain Épice et tout.
À bientôt.